Alors, je vais aller droit au but, parce que l'heure tourne. Je vous invite à chercher Colossiens. Alors, j'ai compris ce qu'a dit Claudine tout à l'heure, je vous laisse le temps de chercher. Colossiens chapitre 1. Nous allons lire les versets 12 à 20. Colossiens 1, verset 12. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Je vais prier. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Je te prie qu'elle produise du fruit en nous ce matin. Je te prie que tu nous éclaires sur ce que tu veux nous dire. Puisses-tu bénir ces instants. À toi toute la gloire, Seigneur Dieu. Amen. Avant de commencer, je voudrais faire deux remarques sur ce passage. Deux remarques qui vont nous guider pendant toute l'étude, pendant tout le message. Alors, pour bien que vous les gardiez en tête, je les ai écrits sur des post-it que je vais placer là. Vous les aurez sous les yeux pendant tout le message. La première remarque, c'est le but de ce passage. Le but de ce passage, c'est qu'une reconnaissance naturelle envers Dieu émane de chacun d'entre nous. Une reconnaissance naturelle envers Dieu émane de chacun d'entre nous. Je tire cette remarque d'une observation du verset 12, et notamment du temps qui est employé par Paul quand il dit « Vous exprimerez votre reconnaissance à Dieu ». Alors ici, c'est un futur. Je ne sais pas si... est-ce que vous avez... Qui a un futur dans sa Bible pour ce mot ?« Vous exprimerez votre reconnaissance, vous rendrez grâce ». Juste un petit sondage. Bon, quelques-uns. D'autres peut-être ont un impératif. « Rendez grâce à Dieu ». Il y a des gens qui ont ça ? Il y a déjà plus de monde. Peut-être il y en a qui sont nuls en grammaire. Quelqu'un ne sait pas quel temps il a dans sa Bible. Voilà. En tout cas, je vois qu'il y a ces deux formes qui sont utilisées. C'est bien parce qu'en fait, dans l'original, c'est aucune des deux. Dans l'original, c'est un participe présent. Rendant grâce à Dieu. En fait, Paul n'est pas en train de donner un ordre à respecter. Rendez grâce à Dieu, sinon vous êtes des mauvais chrétiens. Il n'est pas en train de dire, vous rendrez grâce à Dieu un jour, quand vous aurez atteint la maturité ou quand vous serez au ciel. Non, il exprime un état naturel des choses, de chaque chrétien. Votre croissance dans la connaissance de Dieu va s'accompagner d'une croissance dans la reconnaissance. Deuxième post-it. Le moyen utilisé par Paul pour atteindre ce but, donc qu'une reconnaissance naturelle émane de chacun de nous, c'est d'attirer nos regards sur Jésus-Christ. On le voit aussi au verset 12 et 13. Au verset 12, Paul nous dit « Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière » à ceux qui lui appartiennent. Il nous parle d'un royaume de lumière. Et puis au verset 13, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. » On voit que les deux fois, c'est le même royaume. Mais Paul désire attirer, en tout cas l'Esprit désire attirer notre regard dans le verset 13 sur le Fils de Dieu. Et ensuite, tous les versets qui suivent, ils sont saturés d'expressions comme « il est », « en lui », « pour lui », « par lui ». Tout est centré sur Christ. Le moyen utilisé par Paul pour nous conduire à la reconnaissance, c'est d'attirer nos regards sur Jésus-Christ. Le leitmotiv de mon message ce matin, ce sera le début du passage, tout simplement. Vous exprimerez votre reconnaissance à Dieu. Et nous allons voir dans ce passage que Dieu le Père a livré à la mort celui à qui il avait donné la place la plus glorieuse, pour que nous-mêmes, nous puissions prendre part à sa gloire. C'est le message qui est incarné par Jésus-Christ. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ma reconnaissance envers Dieu est à la mesure de ce qu'est Christ ? Alors on aura deux points durant ce message. Le premier point, ce sera « Vous rendrez grâce au Père en comprenant son amour ». Deuxième point, « Vous comprendrez son amour en contemplant Christ ». Alors on est parti. Premier point, « Vous rendrez grâce au Père en comprenant son amour ». Commençons par relire le verset 12. « Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. » On voit deux actions de Dieu ici, très simplement. Il vous a rendu capable, et à la fin du verset, il réserve un héritage. On voit que Paul aurait pu dire, il vous a rendu capable de prendre part à l'héritage qu'il vous réserve. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, il vous a rendu capable de prendre part à l'héritage qu'il réserve à ceux qui lui appartiennent. Il y a deux actions. Il y a deux actes d'amour de Dieu dans ce verset. Le premier, Dieu prépare un héritage pour ceux qui lui appartiennent. On voit là tout l'amour de Dieu. Il prépare un cadeau merveilleux qu'il donne gratuitement. Parce que Dieu se plaît à donner, à partager. On le voit dans toute la Bible. On le voit dès la Genèse lorsqu'il crée l'univers, quand il crée l'homme, il se plaît à lui donner de bonnes choses. Il se plaît même à donner aux animaux des choses à manger. Il se plaît à donner à l'homme de jouir de toutes les choses qu'il a créées. Dieu est amour et il trouve ça bon de donner, de partager, de bénir. Ça, c'est le premier acte d'amour. Dieu a préparé un merveilleux cadeau pour ceux qui lui appartiennent, un royaume de lumière. Deuxième acte d'amour. Dieu permet aux Colossiens, et par extension à nous, de prendre part à cet héritage, alors qu'il n'était pas pour nous. En réfléchissant à ça, je me suis dit, mais c'est comme si Dieu, il est plein d'amour, il a préparé quelque chose de beau, mais il ne peut pas nous aimer. Parce qu'on lui appartient pas, on n'est pas comme on devrait être. Mais en fait, c'est encore plus fort que ça. C'est pas qu'il a, il a fait en sorte de pouvoir nous aimer. En fait, il nous aimait déjà, alors qu'on ne lui appartenait pas. On le voit dans Romains 5, verset 8. Romains 5, 8, « Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dieu nous aimait déjà en tant que pécheurs, mais Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait en sorte que nous puissions recevoir son amour pour nous, qu'il avait déjà et qu'on ne voyait pas. Je résume donc deux actes d'amour. Le premier, Dieu a préparé un merveilleux cadeau pour ceux qui lui appartiennent. Un royaume de lumière. On verra plus tard ce que ça signifie exactement. Deuxième acte d'amour, Dieu nous permet de prendre part, de recevoir ce cadeau que nous étions incapables de recevoir. Ces deux actes, si on les comprend, si on les intègre dans nos vies, dans nos pensées, elles vont produire naturellement une reconnaissance, une louange, une adoration envers Dieu. Le premier acte, il a trait à ce que Dieu est. Il est amour, il aime partager de bonnes choses, il aime bénir. Savoir que Dieu est un tel Dieu d'amour, ben ça nous pousse à le louer. Vous n'êtes pas d'accord? Le deuxième acte, il a trait à ce que Dieu fait, et ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a rendus capables de recevoir son amour. Et encore une raison de lui exprimer notre reconnaissance. Alors par contre, il y a quand même une question qui demeure. Pourquoi Dieu a dû faire cela? Pourquoi il a dû nous rendre capables de recevoir ce cadeau? C'est encore un peu flou. Mais les versets 13 et 14 nous aident à mieux comprendre. Il faut un zoom sur ce deuxième acte d'amour de Dieu. Verset 13. Je m'arrête à « il nous ». Rien que ces deux mots déjà. Dieu est à l'action pour nous. Il y a beaucoup de religions qui vont vous dire il faut que vous fassiez quelque chose pour Dieu, pour l'atteindre. Il faut que vous recherchiez une spiritualité, il faut que vous fassiez de bonnes œuvres. Mais ça, c'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu, on le voit ici, il se met à l'action lui-même pour nous. Et non l'inverse. Alors qu'a-t-il fait pour nous? Encore une fois, deux choses dans ce verset 13 et 14. Enfin, dans le verset 13, pardon. Première chose, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Nous étions dans les ténèbres. C'est-à-dire tout simplement dans l'absence de lumière, l'absence de Dieu. Dans l'impossibilité de voir Dieu. Pourtant, Dieu, il est partout. Il est omniprésent. Comment on pourrait être dans l'absence de Dieu? Alors revenons au tout début de la Bible, la Genèse, au chapitre 3 de Genèse. Ça va, c'est pas un livre trop dur à trouver. Genèse 3, versets 8 et 9. Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu ?» On voit en fait que les ténèbres dans lesquelles se trouve l'homme, c'est des ténèbres qu'il a choisies lui-même. C'est lui qui se cache de Dieu. Si l'homme est dans les ténèbres, mais c'est parce qu'il a honte. Il a honte de son propre péché. Il se détourne de la lumière qui pourrait mettre en lumière, justement, son péché devant tous. Et c'est bien naturel. Nous aussi, on cherche toujours à cacher ce qui est mauvais en nous. On cherche à ne pas montrer aux autres nos péchés. On cherche à paraître sous le meilleur jour, non ? Si notre péché était révélé à tous, si tout le monde, on pouvait voir les péchés de tout le monde, mais on n'oserait, je pense, même plus aller se voir. On n'oserait même plus se parler par honte. On préférerait fuir les uns des autres. La honte de notre péché nous oblige à choisir les ténèbres plutôt que la lumière. Voilà pourquoi Paul utilise le terme, au verset 13, « Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. » Ou à l'autorité des ténèbres. Nous en sommes esclaves. Nous sommes incapables de jouir de la perfection de la création de Dieu. De trouver notre satisfaction dans ce Dieu d'amour, dans la beauté et la perfection de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il est. Nous sommes condamnés à nous cacher, à choisir les ténèbres. Et là, nous comprenons mieux toute la puissance de l'amour et de la grâce qui est contenue dans le terme « arraché », « délivré ». Il nous a arrachés à ces ténèbres que nous avions nous-mêmes choisies, font notre malheur. C'est donc la première chose que fait Dieu au verset 13, il nous arrache à ces ténèbres. La seconde, il nous fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Après nous avoir arrachés aux ténèbres, Dieu est maintenant à même de nous faire rentrer dans ce royaume, dans ce cadeau qu'il a prévu depuis le début. C'était le but de la manœuvre. Et c'est là que Christ rentre en scène. Car c'est par l'union avec Christ que nous prenons possession de cet héritage. Si nous ne sommes pas unis à Christ, nous n'avons pas accès à ce cadeau, tout simplement. Pourtant, le cadeau est là, mais nous n'y allons pas. Nous ne le prenons pas. Nous n'entrons pas dans l'héritage promis. Et quel héritage ? C'est pas n'importe quoi. Le royaume de Dieu. Vous pouvez chercher tout ce que vous voulez sur la terre, les plaisirs, les richesses. Vous ne trouverez rien qui vaille cela. En quoi consiste ce royaume de lumière qui nous est offert ? Alors Jésus a décrit ce royaume par beaucoup de paraboles. Mais j'ai choisi un verset peut-être un peu plus direct pour gagner un peu de temps, qui nous dit en quoi consiste ce royaume. C'est dans Romains, au chapitre 14, au verset 17. Romains 14, 17 nous dit « Car le royaume de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger et le boire, mais par l'Esprit Saint à nous rendre justes et à nous donner la paix et la joie. » Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice, la paix et la joie, c'est pas là tout ce à quoi nous aspirons tous. Et ben c'est l'héritage qui est laissé par Dieu en Christ. Dieu nous a transportés dans ce royaume-là. Voilà pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux disait en Hébreux 12, 28, « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. » Alors, ça tient bien, ils sont toujours sous vos yeux. C'est le moment de les relire, je crois. Premier post-it, je crois que c'est celui-là. Le but de ce passage, c'est qu'une reconnaissance naturelle envers Dieu émane de chacun de nous. Le moyen utilisé par Paul pour cela, c'est d'attirer nos regards sur Christ. Maintenant qu'on s'est remis en tête ces deux choses, laissez-moi résumer cette première partie. On a vu deux actes d'amour de Dieu. Le premier qui consiste à créer un héritage, à préparer un héritage, un royaume de paix, de justice, d'amour, de joie pour ceux qui lui appartiennent. On voit là la nature intrinsèquement aimante de Dieu, son désir de bénir, son désir de partager, de donner. Le deuxième acte d'amour qui consiste à nous rendre capables d'entrer dans cet héritage. Pour cela, Dieu a dû y mettre de sa personne en deux étapes. Nous arracher aux ténèbres que nous avions nous-mêmes choisies, qui faisait notre malheur. Et deuxième étape, nous transporter dans le royaume de son Fils, dans ce royaume de justice, de paix et de joie, par notre union avec Jésus-Christ. Arrivé à ce point-là, moi personnellement, je ne vois que deux réactions possibles à ce qui est écrit. Soit nous ne sommes pas aujourd'hui dans ce royaume de lumière, ce cadeau offert par Dieu. Nous n'avons pas encore part à cet héritage. Alors la bonne réaction, c'est d'y entrer, tout simplement. En demandant à Dieu de nous arracher à ces ténèbres, dont nous sommes esclaves. En choisissant de suivre Jésus-Christ. pour pouvoir recevoir tout l'amour que Dieu a en réserve pour nous. Deuxième possibilité, nous sommes déjà passés par la croix, nous sommes entrés dans ce royaume, et ces quelques versets nous ont rappelé, ou peut-être nous ont élargi notre vision de l'amour que Dieu peut avoir pour nous, de la puissance de ce qu'il a fait. Et alors la seule réaction possible, c'est de le louer. C'est de louer Dieu. Avant de passer à la seconde partie, j'aimerais juste prier un instant. Seigneur Dieu, merci déjà pour ces trois versets. Nous voyons toute la puissance de ton amour, de ta grâce. Je te prie, Seigneur, si des personnes ne sont pas encore au bénéfice de cet amour immense, qu'ils puissent faire le choix ce matin de le recevoir. Je te prie de les délivrer, Seigneur, comme tu nous as délivrés dans ton grand amour, de leur faire grâce, Seigneur. Et je veux te remercier, Seigneur, d'avoir accompli cela pour moi et pour beaucoup d'autres ici. Je veux te remercier, Seigneur, de nous avoir préparé ce cadeau merveilleux et de nous avoir rendu capables de le recevoir. Sois loué et adoré, Seigneur. Amen. Alors, il nous reste 5 versets. Et je pense que pour ces 5 versets, il nous faudrait 5 messages. Il est déjà midi. Donc, je vais essayer juste de vous donner une vision globale de comment Paul décrit Jésus-Christ dans ces versets. Il nous parle de ses rapports avec Dieu, rapports de Jésus avec Dieu, des rapports de Jésus avec l'univers et des rapports de Jésus avec l'Église. Tout d'abord, ses rapports avec Dieu, on le voit au verset 15. Colossiens 1, 15. « Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute la création. Jésus est l'image parfaite de Dieu. Il n'a pas été créé à son image, comme nous. Non, il est l'image parfaite de Dieu. » D'autres passages de la parole soutiennent également cela. Hébreux 1, verset 3, par exemple. Je ne vais pas le lire, je vous invite à le noter et à le chercher après le message. Jésus est l'image exacte du Père. Voilà pourquoi il pouvait dire à ses disciples, « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Jésus rend visible ce Dieu qui est invisible à nos yeux. Non pas car Dieu se cache, mais car nous sommes incapables de regarder à lui. Beaucoup de gens se disent, même si Dieu existait, des gens qui n'y croient pas vraiment, on ne pourrait pas accéder à lui. Il serait tellement au-dessus, il serait tellement parfait, tellement saint, tellement grand, on ne pourrait pas accéder à Dieu. Mais ces gens, ils ont raison. C'est impossible pour nous d'atteindre Dieu. C'est pourquoi Dieu se rend accessible dans la personne de Jésus. Il est venu rendre visible ce qui était invisible à nos yeux. Si nous voulons accéder à Dieu, il nous faut regarder à Jésus-Christ. Et c'est exactement ce que nous faisons en ce moment. Et je vous encourage à sans cesse regarder à lui, à lire ce que la parole nous dit de lui, à lire ce que lui-même a dit. Parce qu'il faut bien se rendre compte que lorsqu'on fait ça, c'est comme si on regardait Dieu lui-même. Jésus est le premier-né de toute la création. Cela ne veut pas dire qu'il ait été créé. Les versets suivants nous disent que c'est lui qui a créé toute chose. Et nous venons de voir qu'il est l'image parfaite de Dieu, donc il est éternel. Il n'a pas été créé. Premier-né ici, c'est apprendre dans le sens d'être au premier rang. Au premier rang de toute la création. Un peu comme Isaac et Jacob. On peut dire que Jacob était le premier-né d'Isaac. Non pas parce qu'il est né en premier, vu qu'Ésaü est né avant lui, mais parce qu'il avait reçu une position supérieure, celle de l'héritier. De la même manière, Jésus est choisi par Dieu pour être au-dessus de toute la création. Ensuite, au verset 16 et 17, on voit les rapports de Jésus avec l'univers. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toute chose, et tout subsiste en lui. Ces versets nous montrent la primauté de Jésus sur l'univers entier. Parce qu'il l'a créé, parce qu'il était avant l'univers, parce que l'univers ne subsiste que parce qu'il le veut bien. Est-ce que vous connaissez Max Planck ? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ? Eric connaît, moi je connais aussi. On m'a parlé de lui pendant mes cours de physique quantique. Je peux vous dire que je ne comprenais pas grand-chose à ce qu'il a découvert. En fait, cet homme, il a mis toute son intelligence extraordinaire, et vraiment il était intelligent, croyez-moi, à rechercher ce qui composait la matière, les lois qui régissaient la matière. Et voilà ce que ce scientifique si brillant dit à la fin de sa vie. C'est vraiment... Enfin, ça vaut de l'or, je trouve. Pour moi, qui ai consacré toute ma vie à la science la plus rigoureuse, l'étude de la matière, voilà tout ce que je puis vous dire des résultats de mes recherches. Il n'existe pas à proprement parler de matière. Toute matière tire son origine et n'existe qu'en vertu d'une force qui fait vibrer les particules de l'atome et tient ce minuscule système solaire qu'est l'atome en un seul morceau. Nous devons supposer derrière cette force l'existence d'un esprit conscient et intelligent. Cet esprit est la matrice de toute matière. Voilà une intelligence si extraordinaire, une vie consacrée à des recherches pour en arriver à ce que la Bible nous dit dans un demi-verset. Tout subsiste en lui. Cet esprit conscient et intelligent, cette matrice de toute matière, c'est Jésus. Max Planck a également dit ceci. D'après tout ce qu'enseignent les sciences exactes sur l'immensité de la nature, un certain ordre prévaut, indépendant de la pensée humaine. Cet ordre peut être formulé en fonction d'une activité réfléchie. Il y a des preuves d'un ordre intelligent de l'univers auquel l'homme et la nature sont asservis. Bizarrement, ceci, on ne me l'apprenait pas en cours de physique quantique. Oui, car tout a été créé par et pour Jésus. Et le psaume 19, verset 1 déclare « Les cieux racontent la gloire de Dieu ». Et j'ai envie de dire amen, car il suffit de penser à l'immensité de l'univers, à l'immensité des choses que nous ne comprenons pas, pour avoir un aperçu de la grandeur de ce Dieu qui a tout créé. Jésus est à l'origine de toute chose, tout a été créé pour lui, et tout ne subsiste que par lui. Cela nous pousse aussi à la reconnaissance pour toutes les choses qu'il nous fait partager. Moi, j'ai une amie qui est artiste, qui fait toutes sortes de belles œuvres, des sculptures, des peintures, enfin plein de choses, des photos même. Et un jour, elle a fait une peinture très particulière. Elle y a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, beaucoup de son savoir-faire, jusqu'à ce qu'elle obtienne quelque chose qui soit vraiment beau, quelque chose de beau, qu'elle aurait pu mettre dans son salon, qui aurait vraiment embelli sa maison. Et vous savez ce qu'elle a fait ? Au lieu de garder cette belle peinture, d'embellir son salon avec, elle me l'a donnée. Parce qu'elle savait que je venais m'installer à Toulouse. Et elle voulait quelque chose que je puisse mettre dans mon salon. Vraiment, je peux dire que mon appartement est embelli par cette peinture. Quand je vois ce tableau, qu'est-ce que je fais ? Je pense à elle. Et je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant de ce cadeau qu'elle m'a fait. Il en est de même pour Jésus. Il a fait une œuvre extraordinaire, l'univers. Cette œuvre lui appartenait, elle était pour lui. Mais il a dit à l'homme, c'est toi qui vas en profiter. Troisième point, Jésus, les rapports de Jésus avec l'Église. Cette fois, on les voit au verset 18 et 19. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Jésus est à la tête de l'Église, non pour y régner comme un despote, mais parce qu'on l'a vu avant, ben, il a créé toute chose. Il sait toute chose. Il est au-dessus de toute chose, donc naturellement, ben, il est ce qu'il y a de mieux pour conduire son Église dans ce qui est bien pour elle. Il a une vision globale, une capacité de réflexion bien meilleure que la nôtre. Et non seulement il est à la tête de l'Église, mais en fait, le passage nous dit même qu'il est la source de l'Église. Pourquoi le verset 18 nous dit « Il est le commencement, il est le premier-né d'entre les morts ». Vous vous rappelez du sens de premier-né qu'on a vu tout à l'heure ? Ça signifie qu'il est au premier rang. Au premier rang de tous ceux qui sont ressuscités des morts ou qui le seront. Cette fois, vraiment, l'image est complète. Dieu a tout simplement donné à Jésus le premier rang en toute chose. Il n'y a rien qui manque à la personne de Jésus. Il est toute la plénitude de Dieu. Tout ce que Dieu a, tout ce que Dieu veut, tout ce que Dieu aime, tout ce que Dieu a fait, il l'a mis en Jésus, son Fils. Vous vous rendez compte maintenant peut-être de l'amour que Dieu peut avoir pour ce Fils, en qui il a mis tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, tout ce qu'il aime, ce Fils qui est sa propre image, avec qui il a partagé sa propre gloire, un amour immense. Eh bien, Dieu a abandonné ce Fils. Il l'a livré à la mort, nous dit Romains 8, 32, et pour nous. Car c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre, ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Est-ce que vous comprenez l'amour du Père pour nous ? Est-ce que vous ressentez cet amour ? Ce Dieu qui a mis toute chose en son Fils et qu'il le livre à la main de meurtriers pour qu'on puisse accéder à lui. Vous rendrez grâce au Père. Comment ne pas le faire ? Dieu a livré à la mort celui à qui il avait donné la place la plus glorieuse, pour que nous-mêmes, nous puissions prendre part à sa gloire. Comment ne pas lui rendre grâce chaque jour dans tout ce que nous faisons ? Le but de ce passage de la parole, vous vous rappelez sans doute du post-it, ceux qui sont devant peuvent encore le lire, c'était que nous rendions grâce naturellement à notre Père. Pour cela, il nous a rappelé son amour pour nous, qu'il a poussé à préparer un royaume de lumière, un royaume de paix, de justice, de joie. Et il nous a arrachés à notre royaume de honte, de pleurs, de souffrances, pour nous transporter dans ce royaume-là. Et pour cela, il a donné son Fils qu'il aimait plus que tout, qu'il avait placé au-dessus de tout, à qui il avait donné toute sa gloire, ce Fils qu'il a accepté de perdre, à notre profit. Alors, est-ce que ma reconnaissance envers Dieu est à la mesure de Christ ? Je prie. Seigneur Dieu, vraiment, je te demande pardon pour mon ingratitude. Merci de m'avoir rappelé par ce passage toute l'étendue de ton amour, toute la puissance de ce que tu as fait pour moi. Merci de m'avoir rappelé la place que tu avais et que tu as encore aujourd'hui, cette place glorieuse. Merci de m'avoir rappelé que tu es le premier en toute chose, que tu as tout créé. que tout ne subsiste que par ta volonté. Et que malgré ça, tu as tout abandonné pour moi. Je te rends grâce, Seigneur. Je te prie que ces versets de ta parole restent dans nos cœurs et nous poussent à exprimer notre reconnaissance chaque jour. Dans le nom de Jésus. Amen.